Vivre en commun, l'émission de radio.
Allez, de retour dans le studio. Donc on est nombreux, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, autour de la table. Et on reçoit Fabien. Fabien dont on a déjà parlé dans des précédentes émissions. Salut Fabien.
Salut.
Tu es là.
Ouais.
Bonsoir.
On t'a eu au téléphone, on a parlé un petit peu de toi, on a suivi un petit peu ton parcours, et ça nous fait plaisir déjà de te recevoir et puis d'avoir aussi ton ressenti en live, puis pouvoir converser un petit peu avec toi par rapport à ton histoire, par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux resituer, mais peut-être très rapidement, parce que les auditeurs l'ont déjà entendu certainement, mais ouais, pour les nouveaux auditeurs qui n'auraient pas entendu les témoignages précédents, peut-être nous parler un petit peu de ton histoire rapidement.
D'accord. C'est pas facile, mais alors moi je suis un militant anarchiste, présent dans les manifestations. J'étais présent sur Toulouse en 2016. C'était les Nuits Debout, c'était assez tendu. Donc j'avais été interpellé à ce moment-là, en 2016 déjà. J'avais eu un procès, je m'étais interposé à l'arrestation d'un SDF. Donc je m'étais interposé de façon un peu émeutière, en piquant la radio portative du policier. Donc je m'étais barré avec. Ma manière pacifique de résister. Bon, je m'étais fait attraper et puis j'avais pris 48 heures de garde à vue, un procès et une condamnation avec sursis, donc pour vol. J'avais eu une condamnation.
On peut pas jouer avec ces messieurs-là. Donc,
on n'a pas le droit de jouer avec la police. C'est interdit. Okay. J'aurais pu faire ça.
Ok, faut le savoir.
C'est ça, voilà. Il faut voler autre chose la prochaine fois, un képi, je sais pas. Voilà. Et du coup, le parquet de Toulouse avait trouvé que c'était pas suffisant, un mois de prison avec sursis. Donc, il a ordonné en octobre 2016 mon fichage ADN. Et la police de Saint-Gaudens m'a arrêté en novembre 2017. Donc, un an plus tard, m'a placé en garde à vue. Là, j'étais à une table d'information sur les compteurs électriques Linky. Ces espèces de compteurs intelligents. Et donc, on essayait d'informer sur Saint-Gaudens. Et là, une patrouille policière m'a attrapé, interpellé. Et puis, j'ai passé quelques heures en garde à vue. J'ai refusé le fichage ADN. Et à partir de là, voilà, j'ai eu du soutien qui s'est directement créé. Donc, avec une petite mobilisation devant le commissariat, les syndicats qui étaient présents pour exiger la libération. Donc, ça s'est décanté à partir de là. Et on a décidé de garder un peu cette motivation et de se dire tant qu'à refuser, autant lutter jusqu'au bout et autant essayer d'aller jusqu'à la relaxe. Et donc pendant 3 mois, on n'a pas arrêté de passer par des médias locaux, que ce soit la Dépêche, la Gazette, etc., Gazette du Comminges, et puis aussi des médias alternatifs ou l'émission aussi Vivre en Comminges, qui a bien relayé l'information, des journaux comme CQFD, etc., Mediapart. Donc voilà, beaucoup d'informations, des projections, des débats. Le cinéma Le Régent a accepté de projeter quelque chose. Donc voilà, il y aurait plein de personnes et d'organisations, d'associations à remercier.
Et le soutien, ça fait du bien.
Et le soutien,
parce que sans soutien, c'est vrai que si tu te retrouvais tout seul,
c'est perdu.
C'est ça. Peut-être que t'aurais accepté. Enfin, je sais pas.
C'est perdu dans le sens que tu penses que t'aurais été condamné.
Sans soutien, voilà, il y a clairement une différence entre quand on est militant, on est entouré, on est bien encadré, on a des conseils, on a des avis, c'est assez positif et on se sent moins seul. Et des personnes qui n'ont pas tous ces liens, par exemple, ouais, des fois ils prennent des peines de prison ferme pour ces motifs-là.
Pour le refus de fichage d'ADN.
Des peines plus lourdes. Et ce qu'il y avait, voilà, quand on était militant ou une personne qui a entouré, qui a du monde lors du procès, voilà, ça, la justice tape toujours moins fort sur les personnes qui les observent, quoi, en fait, quand ils se sentent observés, c'est. Donc voilà, il y a eu un rassemblement aussi devant le tribunal qui m'a permis de passer plus tôt, parce que histoire d'évacuer le plus rapidement possible le rassemblement et tout cette espèce d'informations, de pataquès qu'on a fait, voilà, ça a été victorieux. J'ai eu une.
Donc je te reprends, excuse-moi, tu étais jugé, c'est ça, le 1er mars,
c'est ça.
Donc 2018. Qu'est-ce qu'il en a découlé? Qu'est-ce que. T'as été relaxé ou tu.
Oui, alors, c'est ça, j'ai été relaxé, oui. En fait, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'État français en juin 2017, donc l'an dernier. sur les motifs d'une disproportion du fichage ADN, c'est-à-dire un fichage ADN qui était au début uniquement réservé aux crimes sexuels et qui, à force des lois sécuritaires, s'est élargi et concerne tous les délits possibles, même dégradation, n'importe quoi. L'objectif, c'est de ficher le plus de monde possible, et ça, ça a été critiqué par la Cour européenne depuis juin 2017. Et malgré tout, l'État français continue de ficher du monde, de juger des personnes, de donner des peines d'amende, des peines de prison avec sursis pour le motif du refus du fichage ADN, et n'a pas encore pris de disposition pour s'adapter à ce que la Cour européenne des droits de l'homme a demandé, a requis. Et donc, du coup, on s'est appuyé sur ça, on avait pu avoir la relax sur ce motif-là, et du coup, ça crée des jurisprudences au niveau cour correctionnelle, cour d'appel. Il y a pas mal de personnes qui sont relaxées en ce moment, donc c'est assez positif. C'est des luttes qui
ouais, réussissent qui, à c'est ça. Et puis ça porte, gagner. C'est le fait voilà. De tenir tête.
Ça a relancé un peu d'informations sur ça, parce que ça s'était un peu écroulé quoi, au niveau de cette décision de la Cour européenne. C'était un paysan basque qui avait, ben, pareil, une histoire avec la police. Faussement une violence lors d'une manifestation. Bon, c'est toujours les mêmes choses à chaque fois. Voilà, dès que tu t'opposes, ton dossier est bien rempli et tu prends une peine qui va bien. Et du coup, il s'était opposé au fichage ADN. Il est allé jusqu'à la Cour européenne. Donc, il a passé 6-7 ans de procédure.
Oh là là là.
Il avait réussi à avoir une relaxe et à faire condamner l'État français. Et voilà, et du coup, ça permettait de relancer un peu ce débat-là. Et on espère que ça va s'améliorer par la suite et que ce va y avoir peut-être des décrets pris, même si ce que je me dis, c'est que ça sera pas, voilà, ça sera des petites réformettes, quoi. Je pense que ça va jouer sur la question de la conservation des fichages ADN, enfin des fichiers.
Ce qui est bien quand même, c'est d'avoir la jurisprudence et de savoir que si on doit se battre derrière, eh ben, on aura peut-être raison plus facilement, quoi.
C'est ça. Après, ce qui est difficile, voilà, c'est vrai que dans les milieux militants, ça circule, l'information. Mais ce qui est plus compliqué, c'est pour des personnes isolées ou des personnes, je sais pas, par exemple dans les quartiers, qui sont habituées à avoir des pressions policières, avoir des procès à la clé, à ce qu'on leur demande leur ADN. Et là, par contre, ils sont pas forcément informés. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est comment médiatiser l'information. Ça va pas passer à TF1 non plus, ou c'est relax, je pense. Oui. Donc c'est des choses qu'on va. Voilà, moi la relax, elle est efficiente, ça fait plaisir, et ça, je me suis un peu posé après ce procès, mais le combat est pas fini, il faut continuer à informer du monde et sur des questions même de comment réagir à une garde à vue, comment faire face à des violences policières, comment refuser tout ce qu'ils nous demandent, c'est-à-dire les empreintes digitales, accepter, voilà, faut oser aussi. Refuser, c'est compliqué parce que t'as beaucoup de pression, quoi. Quand t'es en garde à vue, on te retire toute liberté, on te séquestre, et à partir de là, c'est le fichage ADN. Moi, voilà, la chose qu'on m'a dit, c'est tu risques, t'encours un an de prison avec un an de prison ferme et 15 000 euros d'amende. Donc c'est vrai que si tu sais pas qu'il y a eu des cas de relax, ben, tu vas l'accepter, quoi, et tu vas faire partie des 4 millions de Français déjà fichés.
Mmh. 4 millions de Français, ok.
Voilà. Ouais.
Sachant que ton affaire, elle a fait écho un peu dans toute la France, hein. J'ai eu vent en Bretagne de gens qui me relayaient ton cœur après leur en avoir parlé. Donc ça a fait écho. Donc faut savoir, pour les gens qui seront emmerdés par la suite, ils seront pas tout seuls, quoi.
Non, c'est important avec ça.
Peut-être tu peux rappeler en deux mots pourquoi tu as refusé ce prélèvement d'ADN. Qu'est-ce qui t'a animé pour refuser ça malgré les peines malgré la menace des policiers lors de ta garde à vue?
C'est un refus éthique aussi, c'est-à-dire l'ADN, c'est quand même quelque chose qui me définit, qui est en moi, donc je vois pas pourquoi je donnerais ces données à la police pour des fichiers. Il y a déjà des tonnes et des tonnes de fichiers. On est déjà assez dans un état sécuritaire comme ça. Si on peut ne pas tout donner, c'est quand même intéressant. C'était en plus sur une lutte, voilà, ils sont venus me chercher une table d'information sur le compteur Linky qu'on refuse, et qui est un compteur qui est assez intrusif, qui va être dans les maisons de chaque particulier. Donc voilà, c'est encore, ça fait partie de ça, c'est-à-dire arrêter d'être tout le temps fiché, fliqué. Et puis l'ADN, c'est quand même un gros boulet au pied, quoi. C'est-à-dire il y a des personnes qui ont déjà été condamnées à tort et à travers pour un ADN qui correspondait, une séquence ADN d'un crime qui correspondait au leur. Donc c'est des personnes qui ont passé 2 ans pour se faire innocenter et qui ont passé 2 ans au trou. De l'ADN, on en laisse partout. Là, j'ai sûrement laissé des cheveux, des choses on peut laisser de l'ADN sur n'importe quelle scène de délit ou de crime, donc
c'est pas fiable quoi.
C'est pas fiable du tout. Et le problème, c'est que la justice considère que c'est un peu la reine des preuves, c'est-à-dire que maintenant c'est l'ADN à parler. Donc on est condamné juste pour le motif d'ADN. La justice se demande pas forcément d'autres preuves, des aveux, d'autres causes, et c'est souvent quelque chose qui permet d'inculper des individus quoi. Donc voilà, c'était aussi une des raisons de refuser. Et après, il y a un refus qui est clairement politique, venant de ma part, quoi. Donc, dans la question de tout ce fichage généralisé, ouais. C'est-à-dire, c'est un fichier de classe aussi. Hein. Les délits, c'est vol, ça peut être vol à l'étalage, n'importe quel délit, mais ça ne va pas être évasion fiscale ou abus de biens sociaux. Donc on voit clairement qu'on cherche à faire un fichier des classes les plus populaires pour ensuite aller chercher directement chez ces personnes qui est le responsable de n'importe quel délit. Donc voilà, dès qu'il y a une affaire, ton ADN va être comparé. Donc c'est
une façon de trouver des coupables, tu veux dire, un peu.
Ouais, ça automatise la justice, c'est-à-dire ça permet de... Il y a un rapprochement du milieu scientifique et de la justice, quoi, pour des questions de profit. C'est-à-dire que maintenant la justice fait appel à des laboratoires qui sont spécialisés, qui sont assez branchés avec la police, et donc du coup il y a des programmes informatiques qui jugeront les individus, quoi. C'est-à-dire il n'y a pas besoin d'avoir la personne en face et de lui poser des tas de questions. Si son ADN convient, c'est bon, quoi.
On jugera ton potentiel de délinquance, quoi.
Ouais, c'est
ton
ça.
Potentiel d'agressivité ou de...
Je sais pas. Après,
c'est une dérive possible.
La dérive aussi, c'est que l'ADN est censé... voilà, c'est comme le nucléaire, quoi. On s'est lancé à fond là-dedans, et puis après on se rend compte que putain, on peut pas gérer. Et l'ADN, c'est un peu ça, quoi, la génétique. On a pas encore toutes les informations sur tout ce que ça peut ouvrir comme possibilité. Et là on se rend compte, par exemple, de l'ADN qui devait être prélevé était censé être non codant, donc apporter aucune information sur la personnalité, le caractère de la personne, à part son sexe. Et là maintenant on se rend compte que finalement les brins non codants qui sont prélevés sont un petit peu codants et donnent des informations sur ta résistance aux maladies et sur des informations un peu plus
qui pourraient éventuellement amener l'État à modifier les régimes de mutuelles, et pourquoi pas engager...
C'est quelque chose que j'ai entendu il y a 2-3 mois, j'ai entendu ça à la radio. Alors je me souviens plus si c'est en Belgique ou en Hollande, mais il y a un pays qui était très intéressé justement de prélever les ADN pour refiler. Je m'entends, lorsque l'on veut avoir une mutuelle, lorsque l'on souscrit une mutuelle,
pour établir cet une grille de tarification
demander,
en fonction de l'ADN.
Voilà, c'est ça. C'est ça, okay. Exactement.
Ça, j'étais pas au courant
par
de ça.
Par rapport
mais
à l'ADN.
Mais voilà. Ça me choque pas. Ouais,
c'est pas pour aujourd'hui, mais ça.
Et c'est en prévision, voilà, donc ça se discute, ça se.
De toute façon, on voit que l'objectif, c'est. Ils se disent la science, c'est quelque chose dont ils vont pouvoir profiter ensuite, et du coup l'objectif, c'est faire un fichier le plus rempli possible. C'est pour ça qu'ils repoussent le décret au maximum. Il faut remplir, le fichage, et après ils auront ces données là ils pourront en faire un peu ce qu'ils veulent. Donc c'est assez dangereux, on n'a pas de principe de précaution de
tout à fait. Et là le fichage ADN, il faut pas non plus oublier que c'est valable 40 ans. Enfin là ils gardent cette information là pendant 40 ans.
Ça a été un peu critiqué sur
et c'est
ça.
Pas rien, enfin je veux dire 40
quel
ans.
Que soit ton délit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément pour une personne condamnée, hein. On demande ton ADN si t'es en garde à vue, si t'es juste suspecté, et à partir de là ton profil ADN va être conservé, je crois, 25 ans, mais c'est déjà pas mal.
Et qu'est-ce qu'on entend par profil ADN? Qu'est-ce qui est prélevé exactement, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, tu parlais de brins, de certains codes. C'est juste une séquence en particulière dont on note les caractéristiques, et puis après l'échantillon il est mis à la poubelle, ou c'est un truc qu'on garde et qu'on peut y revenir par ailleurs?
C'est un truc, on te met une espèce de... Soit on te demande de cracher sur un buvard en garde à vue, soit on te met un coton-tige dans la bouche, et à partir de là, ils ont des brins ADN qui vont pouvoir conserver. Non, c'est pour être conservé à 40 ans. Et il y a une possibilité, normalement, d'effacement, mais bon, c'est très galère, quoi. C'est des
procédures. Ouais.
C'est quelque chose qu'on garde et qu'on peut revenir pour réanalyser suivant ce qu'on veut analyser dessus, quoi.
C'est ça. Parce pendant 40 ans, t'as ton ADN qui est dans les fiches, ce fichier automatisé national, quoi, en fait.
D'accord. Au fur et à mesure de la compréhension de ce que c'est que le génome, on peut revenir sur sur ces choses-là pour.
Oui. Dans 40 ans, il y aura sûrement des évolutions au niveau de la génétique et au niveau des informations que les scientifiques en ont, quoi.
Et après, on a toujours la possibilité de refuser, quoi. C'est que c'est quelque chose qui est quand même reconnu comme qui t'appartient.
On n'a pas la possibilité de refuser. Mais
si tu as refusé, on te prend pas de force pour te faire une piqûre ou alors, t'enfoncer un truc dans la bouche. Ou...
Non, on te demande. Après, il y a beaucoup de bluffs en garde à vue. C'est compliqué. Il y a une... même en audition libre où on peut être convoqué des fois à la gendarmerie parce que
c'est un
pourquoi.
Jeu, quoi.
Et en fait, voilà, c'est on... des fois des personnes seront retrouvées avec ouvre la bouche, hop. Sans forcément avoir signé quelque chose, et on leur a fait signer ensuite, quoi. Il y a, c'est normalement, on est censé le prendre de force que en prison. Il y a des personnes, voilà, pour des crimes de plus de 10 ans, 10 ans de prison. Mais après, sinon,
il n'y a pas une histoire comme quoi ça doit être à la demande du préfet aussi. Il n'y a pas toute une procédure comme ça aussi sur le fichage ADN.
C'est censé être à la demande. Ouais. Mais après, maintenant, de plus en plus, la police est en mesure de pouvoir. Demande quasiment systématiquement le prélèvement ADN en fait.
D'accord.
C'est-à-dire les empreintes digitales. Après on peut refuser, mais c'est toujours des c'est des risques, quoi. C'est à chaque fois c'est des peines de prison, des peines d'amende. Donc le fait de refuser, voilà, c'est rentrer dans une procédure judiciaire, des frais d'avocat, voilà, tout le monde va pas pouvoir avoir le la facilité de faire ça. Nous, dans les milieux militants, voilà, il y a des caisses de lutte qui se font. Là, on a fait une caisse de solidarité sur le Comminges qui pourra servir au prochain. Et du coup, ça permet quand même d'affronter plus facilement la justice, quoi.
Oui, tu étais au courant de ça quand c'était arrivé, tu savais quoi. T'avais déjà réfléchi à la question.
Qu'il y aura des frais d'avocat, des frais de justice, mais que voilà, ça vaut le coup de s'y opposer tant qu'on peut, quoi.
Pour moi, du coup, j'aurais une dernière question avant de passer au prochain sujet. C'est est-ce que t'as des références pour de sites internet pour les gens qui voudraient s'intéresser un peu plus sur le fichage ADN ou retrouver ton histoire?
Il y a un article qui est passé sur Mediapart qui est assez intéressant. Qui remet un peu au goût du jour le refus du fichage, la question de la Cour européenne, du décret qui n'a pas été encore pondu. Donc voilà, ça c'est sur le site Mediapart. Après, il n'y a pas vraiment de site, ça a été un peu abandonné, la lutte contre le fichage ADN depuis 2008.
D'accord.
Et du coup, c'est allé de façon exponentielle. On est passé de quelques centaines de milliers de personnes fichées à 3,5 millions et 4 millions.
D'accord.
Et du coup, là, on projette quand même avec des personnes. Il y a des camarades qui ont été relaxés sur Toulouse, donc c'est des choses qui sont assez positives. Il y en a encore qui sont poursuivis pour refus du fichage ADN, qui ont même plusieurs procès à la clé, il y a un camarade de Toulouse qui a deux procès encore à venir en mai et en octobre pour refus du fichage ADN. Donc on voit que c'est vraiment une manière de taper sur les militants et de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire à l'argent. Et avec ces personnes-là, on vise à faire une brochure explicative sur pourquoi refuser l'ADN et laisser une adresse mail, montrer qu'on peut ne pas être isolé, quoi. C'est important. Internet, c'est un super outil. Maintenant, si quelqu'un tape refus du fichage,
ouais, ça va vite.
Je me dis tant mieux s'il arrive à tomber sur nos cas, sur nos adresses mail, et pouvoir se reposer sur des gens et avoir un soutien, parce que c'est ça qui est important. Et pour moi, je considère que voilà, il y a la décision de la Cour européenne qui a été importante dans mon cas, mais le soutien a été tout aussi important, voire plus, pour la question de la relax. Voilà.
Tant que tu es à la radio, tu as envie de passer un petit message, un petit quelque chose? Parce que déjà, c'est bon, une proposition, peut-être que je pense ne pas être le seul à avoir te la proposer, mais quand tu as envie, pareil, de nous communiquer des choses, parler un petit peu avec nous à la radio, tu es le bienvenu.
D'accord.
Tu passes bien la radio, il semblerait. On a déjà eu 3-4 appels d'auditeurs qui nous ont dit super, il est super ce Fabien, etc. Donc voilà, déjà pour ça.
D'accord.
Et puis est-ce que tu aurais des petites choses à nous à pouvoir faire partager avec nous, ou un petit message?
Là, je me suis mis un peu en pause militante et cérébrale.
Ouais, ouais.
Mais du coup, il se passe. Ouais, je crois qu'il y a. Alors, il y a le collectif Linky de Saint-Gaudens, Refus Linky, qui organise une réunion, je crois que c'est ce vendredi, on va dire 18h. Et c'est à Franqueville, donc c'est pas très loin d'ici.
Ok.
Et donc voilà, une réunion encore pour informer les usagers sur le droit au refus là du compteur Linky. C'est-à-dire, okay, voilà, essayer de refuser au maximum les intrusions dans nos vies privées, que ce soit dans nos gènes ou dans nos consommations électriques. Voilà, c'est tant qu'on peut s'opposer, il faut pas hésiter, quoi. Okay. Avant que ça soit trop bouclé et trop verrouillé, quoi.
Voilà, Franquevielle, c'est au-dessus de Montrégeau.
Voilà,
c'est au nord de Montrégeau.
Au nord de Montrégeau, c'est ça. Okay. Donc voilà, prochaine réunion, ça sera le vendredi et vérifier sur l'atmosphère parce que j'ai pas l'horaire précise, mais je pense que ça va être
le Linky. C'est on avait fait une émission sur le Linky, donc on avait expliqué un petit peu le Linky, mais on aurait souhaité faire une autre émission pour pouvoir parler un petit peu de l'actualité de l'actualité. D'accord. Du Linky, savoir un petit peu comment ça se déployait, comment ça se faisait,
rester en contact.
Donc voilà, okay, ça marche, pas de souci, on fera des points sur ça et puis après Et toujours se tenir informé sur la question de la répression, sur la question des prisons. Il y a des personnes qui sont mortes à Toulouse, là, à la prison, à la maison d'arrêt de Seyss. C'est voilà, il y a la garde à vue, la séquestration en garde à vue, et il y a la séquestration permanente en prison. Voilà, ça c'est important de se tenir informé, de lire les journaux comme L'Envolée,
qui est un journal de mauvais traitements. C'est ce dont vous allez parler après.
Oui, j'ai fait un petit montage sur les prisons justement pour parler de l'affaire de Seyss.
Il n'y avait qu'à demander.
On est réactif, hein.
Ça marche. Et puis après, merci encore à ceux qui écouteront et qui s'y reconnaîtront, à tous les soutiens associatifs, syndicaux, politiques, individuels, toutes les personnes qui ont pu être là, et puis à l'émission Vivre en Commun aussi qui a relayé, à l'émission Canal Sud aussi, à la radio Canal Sud à Toulouse et à d'autres médias, quoi.